les hiboux dans les entrailles de la terre. Un podcast proposé par Point de Mire, maison de l'informatique plus responsable, avec la participation de Baptiste Broussard-Rossignol et d'Anouk Witkowska-Hifler. Nos remerciements à Christophe Boltanski pour son autorisation à pouvoir utiliser des extraits de son ouvrage « Minerai de sang ». Au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, des gamins s'enfoncent sous la terre au péril de leur vie, à la recherche de minerais présents, entre autres, dans nos appareils électroniques. Des groupes armés pratiquent le viol, véritable arme de guerre pour chasser des populations et exploiter en toute tranquillité l'or, le coltan, la cassitérite et autres minerais. Voici quelques témoignages de ces esclaves du monde moderne.
C'était les autres qui m'intéressaient, ceux qui fouillaient, jour après jour, l'intérieur des collines. Paysans ruinés, étudiants sans le sou, réfugiés, démobilisés, vétérans, renégats d'un autre conflit, ils avaient accouru de tous les pays pour chercher leur vie, trouver la matière, faire fortune eux aussi. Comme seule arme, ils ne pouvaient exhiber que leur masse, un épieu et une torche. Ils ne disposaient pas de marteau-piqueur ou d'explosifs pour percer la roche. Pas même de casque ou de gants. Leur galerie était forée à la main et plongeait jusqu'à 200 à 300 mètres de profondeur. Ils les étayaient avec de simples branchages. Les creuseurs artisanaux étaient alors près de 3000 à Bizi. On les surnommait les tambouristes, à force d'entendre leur roulement de batterie, ou encore les hiboux, car on vit dans le noir et on ne dort jamais. Ils pouvaient rester 2-3 jours sans sortir, parfois plus. La plupart disaient ne rien gagner. Leurs illusions perdues, ils restaient faute d'argent pour payer leurs dettes et repartir. En arrivant, ils croyaient suer et risquer leur peau pour leur compte. Le peu qu'ils touchaient filait dans la poche des commerçants, et surtout des soldats, les vrais maîtres des lieux, qui accaparaient des puits avec leurs calaches en guise de titre de propriété, interceptaient au passage des sacs de caillasse et prélevaient leurs dîmes tout au long du chemin. Le trou descendait à pic dans les ténèbres. Le sol était jonché de piles usagées, des centaines de batteries cylindriques. Mes chaussures dérapèrent. Je me sentis happé par le vide. Ma semelle toucha un morceau de bois, une bûche enfoncée dans la glaise, puis une autre, et une troisième. Je dévalai un escalier aussi abrupt qu'une échelle. Des coups réguliers, continus, remontaient des profondeurs. Au-dessous de moi scintillaient des dizaines de lucioles. Des diodes électroluminescentes dont les infimes faisceaux mouraient à peine formés. À mesure que je m'habituais à l'obscurité, je voyais apparaître des ombres mouvantes. Le gonflement d'un biceps, l'arrondi d'une épaule, des corps enchevêtrés, certains allongés, enfouis dans la gadoue, d'autres lovés dans un enfoncement, engagés dans une lutte sans merci contre une surface grisâtre à la fois dure et gluante. Leurs gros marteaux projetaient des étincelles au contact du pic à manches courtes. Ils avaient des yeux exorbités, hagards, des mains tordues, crevassées à force de cogner. Ils transpiraient abondamment. Autour d'eux, tout ruisselait. Tout était boueux, friable. À chaque frappe, le boyau semblait sur le point de s'écrouler. Ça peut tomber à tout moment. Il y a une heure de descente. Tout en bas se trouvait le tableau, un filon, une veine pas encore épuisée. Mais le neuvième cercle de cet enfer était alors sous l'eau, inondé par la remontée des nappes phréatiques. Ici, comme ailleurs, on était allé trop loin à la recherche du trésor. On a un moteur, ajouta l'homme. On a des gens là-bas depuis hier. Il me parla aussi de la présence près du tableau, d'un grand salon, d'une grotte où les mineurs pouvaient manger, prendre un peu de repos. Une salle suffisamment vaste pour accueillir, selon lui, 100 à 200 personnes. Une sorte de cour des miracles. On y rencontrait des porteurs d'eau, des vendeurs de cigarettes, de nourriture, de presque tout, parfois même des militaires. Je continuais à m'enfoncer. Je me guidais sans lumière, à tâtons, guettant la lueur d'une lampe torche. L'air était d'une pesanteur de plomb. La terre semblait devenir de plus en plus molle et argileuse. Le couloir se resserrait sur moi. Je devais baisser la tête pour ne pas me cogner. À chaque marche, à chaque glissade, j'étais pris par une sorte d'aan. Ma respiration devenait de plus en plus bruyante. Je finis par m'arrêter. La crainte de l'éboulement, de l'asphyxie, du noir. Cet égouttement continuel. Les bois cassés sous la pression de la terre. Combien d'êtres vivants, ce tube, ce gros intestin avait-il englouti? J'étais saisi d'une peur primitive, d'une peur d'enfant, d'une envie irrésistible de fuir cette nuit d'encre. Cette étuve, cet ossuaire exigu, cette impression de fin du monde. Je rebroussais chemin. Je grimpais à grandes enjambées. Finis par ramper pour atteindre plus vite la surface et sortis presque en courant, à bout de souffle, dégoulinant, les yeux éblouis de soleil. « C'est trop dur !» s'écria Pascal, croisé à l'entrée d'une faille, en slip, les bras râpés, presque blancs. Une taille d'enfant, une barbiche. Il se présentait comme un chef de trou, à la tête d'une équipe de 20 mineurs. Autrefois, il vendait des braises, du charbon de bois, près de Bukavu. Je suis tombé en faillite et suis venu ici. Cela faisait 3 années qu'il raclait les moindres fissures de la montagne. Une vie de forçat. Généralement, je ne gagne absolument rien. Je ne ramène rien à la maison. Je vis de dettes. Tout est si cher. À Bizi, chaque chose se paie au triple, au quintuple de sa valeur. La faute au transport, à Dodom, pendant 2 jours à travers la forêt, aux raquettes, aux dangers courus, aux marchands qui profitent d'une clientèle captive. La majorité des mineurs subsistent avec 1,5 $ par jour. Pascal devait 300 $ à des commerçants, l'équivalent de 2 mois au fond de son trou. Une somme qu'il rembourserait en nature, en kilos de cassétérite, quand il pouvait. Mais en ce moment, ça ne marche pas. Il se plaignait des inondations, du manque de machines pour drainer les parties immergées, mais aussi des motopompes défectueuses, de leur fuite de gaz fatale sous la terre en absence de système d'aération, des maladies liées à la pénurie d'eau potable et à la promiscuité, choléra, diarrhée, gale, mycose, et surtout des chutes de pierre, sa plus grande frayeur. Les glissements de terrain, les affaissements, sont fréquents pendant la saison des pluies. Le 15 novembre 2007, dans le tunnel de Safina, 40 personnes sont mortes ensevelies. Ce jour-là, Gabriel avait dégagé 10 cadavres et 8 blessés. Il tapait contre le tambour quand il avait entendu un grondement au-dessus de sa tête. Comme l'explosion d'un éclair un soir de pluie. La galerie s'était effondrée plus haut, près de la sortie. Il avait pu traîner les corps jusqu'à l'air libre en empruntant un conduit secondaire. En 8 ans, à Bizi, il avait déjà échappé à 3 éboulements. C'est quand les arbres, à l'intérieur, se fatiguent, que la terre pèse. Le dernier accident s'était produit tout récemment, au puits Mavert. Ce coup-ci, il n'y a pas eu de mort. Une fois la fosse en activité, personne n'était prêt à repayer des boiseurs pour qu'ils remplacent les pièces de bois endommagées. Mais les principaux responsables étaient, selon lui, les cascadeurs, les plus pauvres, les derniers servis. Ils viennent gratter la matière là où on est déjà passé. Ils forcent et ça tombe. Tout en muscles perlés de sueur, Gabriel, lui, faisait partie des meilleurs creuseurs, une élite parmi laquelle il était fier de figurer. Mon nom est connu de Bizi à Goma. Autrefois, quand les puits n'étaient pas pleins d'eau, il lui arrivait d'amasser 300 à 400 kilos en 2 jours. De la cassétérite, pas des mauvaises pierres, comme tant d'autres. Le crâne rasé, un nez plat, il avait pour tout habit un short moulant en acrylique. Il triturait son paquet de cigarettes avec nervosité. Il était pressé de redescendre, il craignait de se faire dérober ses sacs de pierrailles laissés au fond de la fosse. Ici, tout le monde vole. À 32 ans, il était plus âgé et plus expérimenté que la plupart de ses compagnons. Il suivait le gîte à la piste. Il repérait le minerai à ses reflets, parfois vert et noir, ou rouge et brun. À sa densité, sa résistance, au son mat qu'il produit sous les coups de marteau. Il savait piquer le tableau sans se blesser inutilement, distinguer les lignes de la matière, ses interstices, ses vénures, et taper indéfiniment jusqu'à perdre le sens du temps. Je peux travailler 72 heures sans m'arrêter. Je ne me repose que pour prendre de l'eau ou quand on m'apporte à manger. Si tu ne fais pas ça, tu ne gagnes absolument rien. Il devait entretenir deux femmes et trois enfants à Kisangani, la courbe du fleuve. Il leur rendait visite une ou deux fois par an. C'était un garçon sérieux, entièrement concentré sur son labeur, au corps tendu comme un arc. Il disait éviter la bière. Plus on en prend, plus on s'expose au danger. Les prostituées, avec elles, la vie ne progresse pas. Il était attaché à sa vie souterraine, malgré les soldats qui lui prélevaient un kilo par sac. Les risques continuels d'éboulement, les diarrhées à force de boire l'eau de la rivière, les dettes contractées auprès des commerçants. Il devait savoir qu'il participait à une fièvre illusoire, à une ruée vers rien. Mais il se plaisait dans les profondeurs de cette terre, naguère si féconde, débordante de force, dans cette matrice, ce ventre, ce boyau chaud et humide. Ici, c'est un deuxième monde. Je voulais assister à l'enfuitage, une procédure longue et fastidieuse qui consistait à peser de vieux bidons, les remplir jusqu'à ras-bord de cassétérite, sceller leur couvercle, poser un plomb, recalculer leur poids et les charger dans un conteneur. Tout cela en présence de 6 ou 7 fonctionnaires, venus délivrer un certificat d'exportation, percevoir diverses taxes et toucher au passage un petit billet. Cette dernière perspective expliquait l'extrême assiduité des agents de l'État à cette cérémonie. « Ils prennent tous quelque chose », m'avait expliqué un transitaire. « Sinon, ils ne se déplacent pas et ça bloque le camion. » À chaque mise en fût, les comptoirs découvraient de nouveaux services, de nouveaux sigles. Les représentants de l'Office des douanes, du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification et de l'Office congolais de contrôle attendaient la fin de l'opération, assis à l'ombre d'un toit en saillie. Malgré cette vigilance, cet engorgement bureaucratique, la moitié du minerai du Kivu passait la frontière en contrebande, souvent à l'incitation de ceux-là même qui étaient chargés de la surveiller, en échange d'autres petits billets. Dans la cour, des ouvriers, payés 2,5 $ par jour, trimaient sous un soleil brûlant, pieds nus, les vêtements déchirés, maculés de poussière. Ils vidaient des sacs recyclés, remplis de gravier, dans d'anciens barils d'essence. Lentement, à la main, sans outils, sans entonnoir, des heures durant.
Les premières victimes de cette guerre oubliée, c'était elles. Je les avais rencontrées lors de mon premier séjour au Congo et leurs témoignages continuaient de me poursuivre. Elles venaient de partout. Elles étaient de tous âges, entassées dans la cour de l'hôpital de Panzi, sous un chapiteau de bois. Leurs yeux bougeaient, mais ils étaient morts. Elles chantaient, louaient le Seigneur, d'une voix qui ne leur appartenait plus, sous l'impulsion d'un personnel soignant à la gaieté forcée. Leurs hymnes monotones retentissaient entre les pavillons en briques rouges. Elles avaient marché des jours, parfois des semaines, à travers la brousse, pour rejoindre cet établissement près de Bukavu, l'un des seuls de la région à soigner les femmes victimes de violences sexuelles. Nema Mujirwa était l'une d'elles, assise, recroquevillée sous un avocatier, le visage fermé, cadenassé comme un panneau d'écoutille en pleine tempête. Il avait suffi d'une allusion à son bébé, un simple compliment sur ses bonnes joues pour qu'elle jette un regard hébété et éclate en sanglots. Une explosion de cris, de gémissements, de larmes. « Je ne connais pas son père, je n'ai pas de soutien, comment va-t-il être accepté ? Qui va le faire vivre ?» Ce garçon qui babillait dans ses bras, c'était tout à la fois son fardeau, son lien avec la vie, son amour, sa honte, le legs de sa captivité. le signal de sa délivrance. Elle le tenait, enveloppé dans son pagne, collé contre sa poitrine immobile. Son corps à elle était affaissé, presque inerte, comme anesthésié. Elle avait encore une tête d'enfant, malgré ses 9 mois dans la forêt prisonnière des Interahamwe. Ces mots qui sortaient de sa bouche lentement, un par un, comme s'ils devaient forcer le passage, avaient d'un seul coup jailli tout à la fois, dans un flot ininterrompu. Ils sont arrivés la nuit, ils étaient 20, ils ont découpé mon papa à la machette et m'ont emmené avec 4 autres filles. Ils l'avaient violée, battue, torturée, jour et nuit durant 10 mois. Ils allumaient du feu et fondaient du caoutchouc sur ma peau. Ses bras étaient constellés de taches blanches, d'auréoles décolorées laissées par les brûlures. Ses ravisseurs ne lui donnaient rien à manger. Elle ramassait des baies dans les bois. Quand ils partaient faire une razzia, ils la ligotaient à un arbre. Ils avaient fini par tuer 3 de ses codétenus, sauf elle et une autre fille. Pourquoi les avait-il épargnés? Elle ne le savait pas. Ils ne leur parlaient jamais. Elles n'étaient plus que des corps, des organes, des cris, des terrains de jeu. Nema avait accouché seule, sous les yeux de ses tortionnaires. Ils ont coupé le cordon et ils ont commencé à me tabasser. Ils m'ont laissée presque morte et m'ont chassée. Elle avait erré dans la jungle avec son nourrisson sans savoir où aller, jusqu'au moment où elle était tombée sur un homme de son village, un creuseur qui cherchait du coltan. M'a recueillie et m'a raccompagnée chez moi. À son retour, elle avait trouvé des maisons vides. Sa mère et les voisins avaient pris la fuite. Où ? Elle l'ignorait. Elle n'était pas pressée de la retrouver. Maman ne voudra pas de cet enfant, j'en suis sûre. Ma vie est gâchée. Qui va vouloir de moi ? Elle avait appris l'existence de l'hôpital, repris la route. Elle venait d'être admise après 5 jours de marche. Elle souffrait de maux de tête continuels, de palpitations, de douleurs dans le bas-ventre. À Panzi, les patientes relataient toutes les mêmes récits d'atrocités, comme si les sévices qu'elles avaient subis obéissaient à des rituels, relevés de techniques peaufinées, systématisées avec le temps. Elles arrivaient, dévorées par l'infection, le plus souvent atteintes du sida, dégoulinantes d'urine, le vagin percé avec une baïonnette ou un couteau. Elles avaient été abandonnées par leur famille, rejetées par leur mari. Pour le directeur de l'établissement, le docteur Denis Mukwege, il ne s'agissait pas d'actes isolés, mais d'une tactique. Le viol au Congo, disait ce gynécologue, est une arme de guerre, une bombe biologique. Un moyen de conquérir un territoire, de chasser ses populations, de détruire une société. Quand des groupes armés arrivent quelque part, ils rassemblent les habitants, violent et torturent systématiquement les femmes devant leurs proches, tuent tous ceux qui tentent de réagir et réitèrent la même opération d'un village à l'autre. Ensuite, ils peuvent exploiter en toute tranquillité l'or, le coltan ou la cassitérite. En 15 ans de conflit, il estimait à près de 500 000 le nombre de femmes victimes d'abus sexuels. The children of Congo cry. Everybody say, no Congo, no fun. All my people sing, no Congo, no fun. Yeah, we cry every day, no Congo, no fun. All my people say, no Congo, no fun. I just don't think you know. Children are dying every day, I don't. People keep crying, dying every day. So why not make a change? Can we do something today? This goes out to my people, DRC Congo, we know. Every day we keep the hope up, we never see things run peaceful. And I don't know people that will come and fight with me, though. Baba go, please save the kids, cause they're trying to get away.
Trying to get away from evil. Everybody say, no.